Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, et excusez-nous pour ce léger retard, on a été retenu, on a une bonne excuse hier, on a eu le privilège d'avoir la première qui est venue faire un petit portrait de nos auteurs sur le stand, voilà, donc on a pris un peu de retard. Merci à vous de venir ici sur cette table ronde sur les nouvelles voies de la fantasy belge, avec nos deux invités, donc Katia Lamero Zamora pour... Lapsus, je commence par un lapsus.
Pas de souci.
Pour les ombres des Verts et Damien Snyers pour la stratégie des As, tous deux édités aux éditions ActuSF, que je représente ici. Alors n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, des envies, si vous voulez en savoir plus, on peut être bavard, mais on vous laisse la place bien volontiers si vous avez des choses à demander. Un très rapide préambule en préparant cette table ronde. Je regardais un petit peu l'histoire de la littérature d'imaginaire belge au sens large. Alors, imaginaire, c'est ce terme aujourd'hui qui, depuis quelques années, recoupe la fantasy, la science-fiction, le fantastique, un petit peu steampunk, tous ces courants en fait qui se regroupent derrière ce terme. Et je me suis rendu compte en fait que cette histoire-là était vraiment liée à l'histoire globale du genre. Si on commence au 19e siècle très vite avec les fondateurs, Marie Shelley, son Frankenstein, Jules Verne en France, bien sûr, avec ses voyages de la Terre à la Lune ou au centre de la Terre, il y avait un certain aussi, comme Joseph Henri Honoré Beugs, que vous connaissez certainement mieux sous le titre de René Aîné, qui lui a largement contribué à être un des piliers du genre, avec de nombreux titres, bon, La guerre du feu, certes, mais aussi Les navigateurs de l'infini, et bien d'autres titres qui sont restés. Très vite sur le début du XXe siècle, encore une fois, on voit qu'apparaissent des grands noms. Là. On voit Howard Lovecraft aux États-Unis, on voit aussi des autrices apparaître, par exemple en France, Nathalie Henneberg avec La Plaie, qui est devenue un classique un peu du genre. Et là aussi, on voit un certain Jean-Raymond Marie de Crémer, bon, je ne connaissais pas son nom, plus connu sous le nom de Jean Ray, avec son Harry Dixon, son Sherlock Holmes fantastique. Là aussi, un Belge qui a marqué le genre. On continue sur la fin du 20e, Philippe K. Dick et son Adieu au château, qui a ensuite son Blade Runner qui a été adapté par Ridley Scott, Ursula Le Guin aux États-Unis, et là encore, en Belgique, un Liégeois qui rejoint nos invités, Alain Le Bussy, avec son cycle d'Aqualia, dont un des romans de la série Delta a reçu un prix qui mène assez fameux en France, le prix René Aîné. Donc voilà, la boucle était bouclée. Et le 21e siècle, où on en est, cette littérature de l'imaginaire, fantastique, fantaisie en Belgique? Et bien, elle continue toujours avec cette émergence. On a, elle s'est vraiment installée dans le paysage de la littérature de l'imaginaire. Il y a les regrettés Anne Duguel, partie il y a quelques années, alias Gudule, qui est une très grande novelliste, qui avait été notamment été primée pour un recueil qui s'appelait Le Chien qui rit. Encore le regretté Alain d'Artavel, avec son Océan Noir et Imago. Et puis, il y a aussi des auteurs qui ont fait leur place et qui ont aujourd'hui une place prépondérante dans l'imaginaire. Je pense par exemple à Sarah Dock, qui est traductrice, mais qui est aussi autrice de Technoferie, et bientôt avec son second roman, La Complainte de Foranza. Ou encore Stéphane Plateau, qui a tracé son Sentier des Astres, sa saga, avec un premier tome très remarqué, Manèche. Et puis, il y a nos invités. Et je voulais commencer, on va tirer des fils, et je voulais commencer petit à petit à en tirer un premier. Le premier fil que je voulais tirer, c'était celui qu'on veut vous connaître. Katia, quand je vois votre parcours, une licence de littérature romanesque, un master en édition, vous travaillez dans le numérique, vous avez une bourse d'écriture de la Fondation Vocation, maintenant vous êtes à la RTBF, on peut dire quand même que... là, vous entrez de façon volontaire et décidée dans l'écriture. Là, on est vraiment sur un choix de carrière, je ne me trompe pas.
Pas du tout. Donc, c'est-à-dire que j'ai compris très tôt que j'aimais écrire, que j'aimais qu'on raconte des histoires. Et c'est vrai que tous mes choix, à partir de l'école secondaire, donc à partir de 15 ans, ont été finalement guidés par cette envie. Donc, ne serait-ce que le choix, par exemple, de prendre latin comme option, de continuer latin comme option, parce que c'était un terreau fertile de mythes et de légendes qui sont fondatrices, au final, de notre société occidentale. Par après, le choix de mes études, je me disais, mais comment est-ce que je peux... Ma démarche, ça a été toujours de soulever le capot. Donc, je soulève le capot, je regarde comment c'est fait, Donc la licence en littérature romane m'a permis de voir comment la langue était faite, comment elle a évolué depuis le latin jusqu'à aujourd'hui. Le master en édition m'a permis de voir comment un livre était fait, comment du manuscrit on arrive au livre. Et là maintenant à la RTBF je travaille au développement des séries belges avec les scénaristes. Donc là je travaille encore plus profondément, je regarde les pièces du moteur, comment une histoire est faite.
C'est intéressant cette approche de regarder sous le capot. Vous aviez vraiment ce besoin de décortiquer de A à Z la chaîne du livre pour vous inscrire en tant qu'auteur dedans. C'est intéressant ça, c'est pas une démarche qui est très forcément courante.
J'ai très vite surfé sur des forums à l'époque, c'était le forum de Brajlum justement, où il y avait vraiment toute une communauté qui commençait à échanger des textes, des premiers chapitres, des conseils à l'édition. Et par exemple, les conseils des éditeurs, je les imprimais, je les collais dans ma chambre. Et j'ai très vite compris que j'avais l'impression que ça allait être un parcours du combattant pour être édité. Donc je m'étais préparée. Donc pour se préparer un maximum, il faut pour une expédition, il faut prendre le bon matériel. Et c'était vraiment ma démarche intuitive en fait, de comprendre c'était quoi l'édition, c'était quoi les enjeux d'un éditeur. Et du coup, ne pas arriver de manière un peu naïve dans le monde de l'écriture en pensant que parce que j'écrivais, ça allait fonctionner. Il y a plusieurs acteurs, c'est collectif.
Un parcours de combattant que vous avez quand même bien amorcé, parce que vous avez quand même pas mal de publications. Vous avez une trilogie, vous avez été novelliste dans pas mal de recueils, dont Bruxelles Noire, qui était dirigé par Michel Dufran. Donc il y a Les Ombres des Verts, qui est sorti aux éditions Actu-SF, dont on reparlera incessamment sous peu. Petite attention aussi pour Les Draps de Noces, une nouvelle donc, qui ressort dans Belgique Miniature et qui est une exclusivité du salon, c'est ça, elle sort là?
C'est ça, elle est sortie juste là. J'ai eu un exemplaire en main hier et rencontré l'éditeur hier, puisque c'est un éditeur de littérature générale. Et c'est ma première nouvelle de littérature blanche, on va dire. Voilà.
Donc, toute la chaîne, tout format, tout style.
Une belle histoire.
Une belle histoire. Damien, on est sur un profil peut-être un petit peu différent. On est sur quand on voit votre parcours, vous avez fait des études pour devenir prof en secondaire, des études de français et de langue étrangère, mais vous êtes un peu détourné à un moment. Vous avez eu une première publication, donc La Stratégie des As, aux éditions ActuSF, et une nouvelle numérique qui est sortie dans le même univers. Je me trompe en disant que l'écriture, comme pas mal d'auteurs francophones, c'est plus un à côté, peut-être un complément de votre activité. Je sais que vous faites aussi de la photo, vous êtes aussi voilà, un complément artistique à votre activité professionnelle ou autre.
Alors en fait, vous vous trompez. Parce que à la base, mon but, je m'en suis rendu compte assez tôt, c'était quand j'avais 18 ans, j'avais commencé à écrire et vers 20 ans, je me suis dit, ok, j'ai envie d'être auteur. J'avais vraiment envie j'étais vraiment naïf à l'époque justement. Je me disais j'avais vraiment envie d'être auteur et de vivre de ça. Sauf que c'était pas possible. Donc je me suis dit je vais commencer des études pour qui étaient en rapport avec l'écriture. J'avais pas envie de faire l'université. Je me suis dit je vais essayer de faire des études pour devenir prof de français. Parce que ça restait dans le littéraire, ça restait dans ce que je voulais faire. Je me suis rendu compte que je ne voulais pas être prof. Et que mes études me permettaient uniquement d'être prof, donc je l'ai arrêté. Mais ça m'a appris plein de choses. Mais mon but, ça a été vraiment très tôt d'être auteur à temps plein. Sauf qu'il fallait quand même que je gagne ma vie, parce que j'aime quand même bien de manger tous les jours. C'est quand même pratique. Donc, idéalement, si je pouvais, je serais vraiment auteur à temps plein. Et c'est plutôt le reste qui est d'un à côté, en fait. Mon boulot me permet de payer mes factures. Et la photo et la guitare permettent d'exprimer ce que je ne saurais pas exprimer avec des mots. Mais l'écriture, c'est vraiment le truc central chez moi.
D'accord, donc on est sur un autre chemin en fait. Voilà.
Ouais.
Des choses qui vont basculer, donc des projets qui vont apparaître, une écriture plus intensive dans les prochaines années.
Oui, il y a des projets qui vont apparaître, mais mon éditeur ne veut pas que j'en parle pour le moment.
Ah, ces éditeurs, quand même. Je voudrais dérouler un deuxième fil avec une question que je pose à tous les deux. Un petit peu la question, alors je l'appelle la question de la filiation un peu et des inspirations. quand on est auteur d'imaginaire belge, est-ce qu'on s'inscrit dans une inspiration qui est plutôt autour des auteurs francophones, ou il y a une inspiration très forte des littératures étrangères du genre, je pense notamment aux anglo-saxons?
Dans mon cas, moi je suis belgo-canadien, ma mère est canadienne. Le premier bouquin que j'ai lu de ma vie, qui est mon livre sans image, j'avais 8 ans, c'était Bilbo. Et j'ai beaucoup lu les auteurs anglo-saxons. Donc moi, il y a au niveau fantasy, c'est clairement du côté anglo-saxon que ça m'a attiré. J'ai découvert tout ce qui était imaginaire francophone assez récemment, en fait, quand j'ai commencé à lire les auteurs des Indes d'imaginaire déjà. Avant ça, je ne savais pas trop que ça existait, l'imaginaire francophone. Donc maintenant, je commence à trouver des inspirations, je commence à trouver d'autres choses. Mais pour moi, mes inspirations principales en imaginaire, c'était vraiment Tolkien, Robin Hobb, Orson Scott Card, même Sapkowski du côté polonais. Mais pour le reste, tout doucement, je commence à pouvoir trouver de vraies inspirations du côté francophone. Chez des gens complètement barrés, du genre Karim Berouka ou même Fabien Clavel qui ose faire des trucs qui sont complètement différents. Il y a vraiment des trucs à aller chercher là-bas. Et je pense que ça va aussi un peu influencer ma manière d'écrire maintenant. Donc peut-être qu'il y aura une rupture entre ce que j'ai écrit précédemment et ce que je vais écrire plus tard, grâce à ça.
Un peu comme les peintres, il y a la période influence anglo-saxonne, il y aura la période francophone de Damien Snyers.
Si ça se trouve, peut-être, mais je pense que pour ça, il faudrait que des gens commencent à analyser vraiment spécifiquement le bouquin. Faut peut-être un niveau de notoriété un peu au-dessus que celui que j'ai maintenant.
C'est rigolo ce que tu dis, parce que moi, du coup, ça a été un peu le contraire. Je me rencontre en t'entendant. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai su lire et que j'ai montré un appétit pour l'écriture, parce que je racontais des histoires avec des dessins magnifiques avant même de savoir écrire. Ma mère m'a mis des livres dans les mains et elle m'a mis ce qu'elle connaissait, c'est-à-dire la comtesse de Ségur, par exemple. Donc j'ai lu tous les bouquins de la comtesse de Ségur. J'ai lu beaucoup de littérature de jeunesse francophone, enfin, française pour le coup. Et puis ensuite, j'ai découvert la collection de l'École des loisirs, où là, la collection de l'École des loisirs, il y a autant des histoires d'horreur que des histoires, des romans historiques, que du fantastique. J'ai commencé à aimer beaucoup. Mais la vraie rencontre avec l'imaginaire, parce que ma mère lit plutôt de livres historiques, elle a besoin d'apprendre en même temps qu'elle lit. Donc ma vraie rencontre avec l'imaginaire, ça a été le programme de 3e année secondaire. On voyait le fantastique et j'ai lu La nuit des temps de Barjavel. Et là, ça a été un coup de foudre, ça a été là, la petite brèche qu'il y avait dans le catalogue que je commençais à reconnaître chez le libraire, parce que tout d'un coup, j'ai appris qu'il y avait autre chose et que c'était, je crois que c'est le premier coup de cœur, le premier livre, où j'ai pleuré à chaudes larmes et où je me suis dit, bah, en fait, c'est ça que je veux faire.
Ah oui, c'est drôle, c'est vraiment deux profils, c'est pas voulu, mais c'est deux profils vraiment très différents.
On n'en a même pas parlé en plus.
Non, effectivement, on n'en a jamais discuté.
Est-ce que vous pensez que ça se ressent du coup dans vos écrits ou dans vos premiers essais? Souvent, c'est les premiers romans en fait qui sont le plus teintés en fait par l'influence des écrits, conscient ou inconscient.
Moi, j'ai l'impression que dans tout ce qui m'influence, tout ce qui m'a influencé, il y a une espèce de digestion de plein d'éléments. Si je prends Les Ombres des Verts, il y a un peu de Comtesse de Ségur, mais il y a aussi un peu du Jardin Secret, il y a un peu de Narnia. Donc c'est une espèce de digestion de plein d'influences différentes. Et je pense qu'il y a quelque chose de propre à la Belgique aussi, puisqu'on est à la fois sous influence de la culture française. Et puis par-dessus la culture de la France, il y a les anglo-saxons. Donc nous, on va se faire une place là-dedans. Et je pense que c'est trouver dans ce vortex d'influence ce qui fait notre spécificité à nous.
Il y a vraiment une volonté de chercher une spécificité?
Non, ça vient naturellement, je pense, vraiment.
Maintenant, je pense que c'est beaucoup de mélange, en fait. Mais c'est mes influences, elles sont autant cinématographique que littéraire. Donc, c'est, j'ai envie de dire, doublement anglo-saxon, parce que la plupart des films de l'imaginaire qui existent sont anglo-saxons. Donc, ouais, je pense que ça vient majoritairement des anglo-saxons chez moi. Par contre, j'ai un peu oublié le reste de la question. Si éventuellement tu peux la répéter.
Non, il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que tes lectures, tes inspirations de lecture, en fait, du coup, quand tu as commencé à écrire, ça s'est retrouvé dedans enfin, ou pas du tout?
Oui, mais vraiment plus mes influences cinéma, du coup. Parce que c'est, mon livre, par exemple, je suis plus influencé. Enfin, ce qui m'a plus influencé, c'est des films du genre Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Et aussi parce que je sortais vraiment de cette saga-là, tout ce qui était la saga du sorceleur de Sapkowski. Donc ça fait un petit peu des extrêmes, c'est entre la Pologne et les États-Unis. Donc ça fait vraiment des mélanges de beaucoup de choses, et je pense qu'il y a beaucoup de choses dont je suis même pas conscient en fait. Que je suis allé chercher dans certains films ou certains livres, certains trucs. Mais je pense que c'est un peu pareil chez tous les auteurs. Je me rappelle quand j'étais en région d'Ac, on avait un cours d'histoire de l'art, et il y avait un prof qui nous a expliqué quelque chose qui était super important et qui, chez moi, est vraiment resté. C'était, il nous parlait de Raphaël, le peintre de la Renaissance. Il nous expliquait que Raphaël n'avait pas vraiment innové énormément au niveau technique, mais par contre que c'était une vraie éponge et qu'il reprenait chez plein de peintres, plein de techniques différentes qui marchaient super bien, et lui arrivait à les reprendre à sa sauce et à faire quelque chose de nouveau, mais avec des trucs qui existaient déjà. Et je pense que c'est comme ça que nous, on fonctionne tous. En fait, on reprend, on n'arrête pas de reprendre des trucs et juste les ressortir à notre manière. Et ce serait vraiment super, super amusant de prendre chaque bouquin et d'essayer de voir, tiens, tel passage, d'où est-ce que ça peut venir.
On le demandera à la personne qui analysera le parcours, oui, et les différentes, oui, époques aussi, oui, de se pencher sur la question.
Je vois qu'il y a des jeunes ici, si jamais il y a des gens qui font des études littéraires ici, si jamais il y a des gens qui veulent analyser le bouquin, faites-vous plaisir, on sera super intéressés.
Et en plus, on est toujours vivants.
Oui, vous pourrez intervenir en cours. Est-ce que vous avez des questions dans le public, déjà, des choses que vous avez envie de poser un peu sur ce parcours de nos auteurs? Pas encore.
Moi j'en ai une parce que j'ai peur d'avoir dit une grosse bêtise. Est-ce que la comtesse de Ségur est française? Maintenant je doute. Elle est française.
Tu viens de me donner un doute, mais pour moi...
Oui, ça va. Parce que j'avais peur d'avoir dit une grosse bêtise. Genre en fait j'ai lu les traductions et mais ça va.
Le autre film, celui de vos écrits. Et là je vais commencer par vous, Katia. Alors j'ai essayé de donner deux œuvres qui m'ont fait penser à vos Ombres des Verts. Si je vous dis les Ombres des Verts, c'est un peu entre, ben, vous l'avez cité vous-même, le monde de Narnia, C.S. Lewis, donc avec ses enfants qui passent de l'autre côté dans un monde imaginaire, et le Royaume de la Rivière de Catherine Patterson, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom du Secret de Terabithia. C'était le film qui a été adapté il y a quelques années, où deux enfants s'inventent un pays imaginaire dans la forêt autour de chez eux.
Complètement. Complètement. C'est vraiment le jardin secret qui donne sur Narnia, absolument. Et c'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Moi, j'ai écrit le roman. Apparemment, j'ai mélangé deux codes.
Oui, juste pour redonner le cadre, donc les Ombres des Verts, c'est en deux mots, vous pouvez dresser le portrait, oui, l'aspect gothique, le manoir. Oui.
Donc c'est l'histoire de Amaryllis, qui a 15 ans, et qui vit, on est au début du XXe siècle, et qui vit dans un manoir qui tombe en ruine avec sa mère. Et c'est un domaine, un manoir qui est niché au milieu d'un domaine, qui est entouré par une grille et une forêt, et puis derrière la forêt il y a une grille. Et Amaryllis n'a jamais pu sortir du manoir, parce qu'à chaque fois qu'elle essaie de sortir, il y a un brouillard qui recouvre, qui entoure la maison et qui lui fait perdre son chemin, et elle revient toujours sur tous ses pas, elle revient toujours jusqu'à la maison. Et Amaryllis est entraînée presque militairement par sa mère à devenir la meilleure botaniste du monde. Donc en fait on a le jardin, la serre qui est rentrée dans la maison, les plantes qui poussent librement sur la moquette, qui envahit les murs, les meubles. Et Amaryllis a des problèmes pour dormir, donc sa mère lui prépare un sérum. Et ça lui permet en tout cas de se reposer, ou bien de ne pas savoir ce qui se passe pendant la nuit. Parce que pour des raisons que vous découvririez dans le livre si vous le lisiez, elle évite de prendre ce sérum. Et pour elle commence une aventure fantastique derrière certaines portes de la maison. et derrière cette la porte des domestiques qui mène sur la forêt, qui se retrouve peuplée d'êtres fantastiques. Donc, le côté gothique vient, parce que je n'avais pas calculé du tout, mais le côté gothique vient de cette maison, ce manoir qui tombe en ruine, voilà, et le côté plus fantasy, Narnia, vient des êtres qui peuplent en fait ce monde de la nuit, où on a un dragon, un bucentaure, voilà, et une épopée.
C'est drôle.
1-2-1-2, oui, c'est revenu. 1-2, oui. C'est drôle que vous disiez que le gothique est apparu au fur et à mesure, parce que le manoir, c'est vraiment un personnage central dès le départ. Et vous ne l'avez pas senti arriver d'emblée dans le décor.
C'est pas moi qui ai utilisé le mot gothique, en fait. C'est, il y a, pas cette foire de Lucie, la précédente, il y a eu une lecture à Liège, à la librairie Livre au Trésor. Ils m'avaient proposé que des comédiennes lisent des extraits des Ombres déserts qui étaient en train d'être écrits. Donc j'avais donné les deux premiers chapitres. Et c'est quelqu'un dans le public qui est venu me voir et qui m'a dit « C'est merveilleux de passer d'une trilogie dystopique à un roman gothique. » Et là, je me suis dit, oh non, mon Dieu, c'est vrai, c'est un roman aussi, je ne m'étais pas du tout rendu compte.
La révélation par le lecteur.
Complètement.
Damien, je vais vous laisser présenter la stratégie des As. Et si je vous dis, c'est entre Les mensonges de Locke Lamora, une série bien connue de Scott Lynch avec sa bande de voleurs dans un univers fantasy. Mais aussi un film, il y a quand même un petit côté Ocean Eleven, avec quand même donc le film de Soderbergh avec George Clooney, avec ses cambrioleurs à qui on force un peu la main pour faire un casse.
Alors, tout le monde n'arrête pas de me parler de Scott Lynch. Je n'ai jamais lu Scott Lynch. J'ai acheté le premier tome parce que tout le monde m'en parle et tout le monde me dit que c'est génial. Et il est sur ma pile à lire, qui, comme pour chaque auteur, la pile à lire est autre que ça. Et donc, elle ne descend jamais. Et donc, ça fait toujours partie de ma pile à lire depuis 3 ans maintenant. Mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, ça pourrait être une influence, à s'y parer. Et pour Ocean's Eleven, bah, j'ai vu les 3, j'ai pas encore vu le dernier. Donc oui, je pense que ça fait partie des influences, pas forcément directes, parce que je pensais pas à ce film-là en écrivant, mais j'ai adoré, j'ai vu tourner quelques fois, ça va faire partie des influences, ouais. Donc en fait, c'est une histoire de cambriolage dans un 19e siècle imaginaire. Imaginaire parce qu'il y a des elfes et des trolls, et des demi-elfes, mais pas des demi-trolls, parce que ça serait assez bizarre, j'ai pas envie de penser à ça. Et imaginez aussi parce que ça se passe dans un univers steampunk, donc il y a des machines à vapeur qui n'existaient pas, il y a un peu de magie, et donc l'histoire c'est 4 voleurs qui doivent essayer de voler un bijou qui est censé pouvoir guérir n'importe quelle maladie. Le truc c'est que c'est une commande, et que si jamais ils ne le trouvent pas, le commanditaire, c'est pas l'homme le plus gentil du monde, il y a quand même un petit risque de décès. Parce que c'est pas drôle si au bout d'un moment on les désage. Voilà. S'ils peuvent s'en sortir, voilà. Trop facilement ça va pas. Et donc forcément tout ne se passe pas bien. Parce que sinon c'est pareil, c'est pas drôle.
On a commencé à l'avoir en filigrane. Il y a la question de la spécificité ou pas de l'imaginaire belge. En préparant cette table ronde, je me suis posé la question en revoyant des passages de vos textes. Je me disais par exemple. Je pose la question à vous deux, mais par exemple dans la stratégie des As, je me disais, est-ce que finalement vous êtes liégeois, la cité de la stratégie, elle me fait moins penser à une ville médiévale française que peut-être à la cité de Liège. Et pareil, sur les codes que vous utilisez, vous, dans les Ombres déserts, on n'est pas dans le fantastique de Toi et Philippe Gautier, on n'est même pas dans le Bram Stoker de Dracula, non, on est dans autre chose. Est-ce que c'est juste un hasard ou il y a quand même des visuels, quelque chose de spécifique à l'écriture belge imaginaire et au sens large?
Alors dans mon cas, moi quand j'ai écrit la stratégie des As, la ville dans laquelle ça se passe, donc, qui s'appelle Nowy Krakow, qui s'appelle donc, la Nouvelle Cracovie, c'est forcément, il y a des éléments de Cracovie dedans, mais j'avais vraiment en tête un visuel qui ressemblait à celui de Bruges. Donc des maisons assez typées. Il y a vraiment une influence belge clairement là-dessus. Pas vraiment du tout dans les villes françaises, vraiment dans les villes flamandes. Mais toujours avec un côté steampunk dedans. Et c'est assez marrant parce qu'il y a quelques jours, j'étais en train de discuter avec Stéphane Plateau, on était allé prendre un verre, parce que tous les auteurs belges se connaissent, mais et on discutait justement des spécificités belges, c'est difficile à dire pour moi. Et qui me parlait d'un roman belge mal traduit, et qui se passe à Bruges. Mais je pense pas que l'auteur y habitait, et je pense que rien qu'en étant belge, peut-être que j'ai dit une bêtise,
il y habitait,
ça se trouve. Mais j'ai l'impression que même en étant belge, en fait, on retombe toujours sur les mêmes codes, sur les mêmes influences. Il y a toujours des éléments qui reviennent, en fait. Et peu importe les auteurs, on sent qu'on partage un truc commun, même si on n'écrit pas les mêmes choses, même si on n'écrit pas dans le même genre, c'est dans la même ville. Il y a toujours un petit truc qui fait qu'en fait on est belge et qu'on n'est pas autre chose.
Effectivement, il y a des choses de Liège, parce que moi aussi je suis liégeoise, qui ressortent dans les décors, notamment l'importance du fleuve. Je pense que à la fois dans la trilogie des Chroniques des Hémisphères, à la fois dans Les Ombres des Svers, le fleuve, la Meuse, en tout cas à Liège, il y a un fleuve, ça c'est obligatoire. C'est des paysages vallonnés. Le lierre est un élément hyper important que je n'avais pas conscientisé, c'est en relisant ou en retravaillant que je me suis rendu compte qu'en fait la maison des Svers est mangée par le lierre. Et en fait, quand tu te promènes à Liège, dans les coteaux de la citadelle notamment, on a des murailles qui sont mangées par le lierre, des rideaux de lierre comme ça, parce que Liège c'est aussi la cité des escaliers. Je ne sais plus quel auteur belge disait que si on mettait bout à bout tous les escaliers de Liège, on descendrait jusqu'en enfer. Ou au paradis, pardon, on rejoindrait le paradis et l'enfer, c'est super intéressant. Et le climat, le brouillard, le ciel gris, le ciel blanc, c'est quelque chose qui, pour moi, est très spécifique, en tout cas, à la Belgique. Et j'ai un ami italien qui s'appelle Sacha Alizzi et qui est danseur de swing et qui me disait que cette bruine, vous voyez cette bruine, qui on dirait qu'il ne pleut pas, mais pourtant vous êtes trempé au bout de quelques minutes, en Italie ils appellent ça la pluie de novembre, sauf qu'en Belgique c'est toute l'année.
Si je peux juste ajouter quelque chose concernant un petit fun fact concernant les escaliers, il y a un site américain qui a fait le classement des 10 escaliers les plus difficiles à monter du monde, dans lequel on retrouvait les escaliers de la montagne de Buren. Effectivement, quand on est en bas, on se dit on va monter ça, ça va être compliqué.
Pour la petite histoire, moi j'étais à l'école en bas des escaliers, donc monter et descendre, je l'ai fait pendant 6 ans tous les jours, donc je pense que les escaliers ont quelque chose dans ma littérature aussi de spécifique.
D'autant plus dur à monter, je pense qu'il y a aussi l'allée à bière en Belgique, qui ne va pas rendre la chose toujours facile.
Ouais, non, surtout après quelques-unes, je crois qu'il y a moins de bien, c'est la figure en bas. Mais juste par rapport à Liège, je pense qu'il y a un truc qui fait en sorte qu'on écrit aussi nos bouquins et pas autre chose, c'est que Liège est une ville qui est super bâtarde. C'est un gros mélange où on peut trouver des bâtiments super nouveaux à côté d'un bâtiment très 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 vieux. On construit un peu n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est vraiment ce qui fait la spécificité de Liège. Je vais arrêter de dire ce mot parce que c'est vraiment ça deux étoiles du bout dessus. Ouais, la singularité de Liège. Mais donc oui, je crois que c'est vraiment quelque chose d'important parce que dans nos bouquins, il y a des mélanges de plein de trucs. Et peut-être que ce ne serait pas forcément le cas si on n'avait pas vécu à Liège.
Si je récapitule, Liège, ça ressemble à tout et n'importe quoi. Il y a de la brume, il pleut toute l'année. Les escaliers sont dur à monter. Je suis pas sûr que l'office du tourisme de Liège vous accorde une bourse. C'est intéressant parce que les éléments que vous donnez, ce sont des éléments visuels. Vous donnez des éléments de contexte qui sont soit architecturaux, soit un rythme de vie bien précis. On parle du climat, on parle d'une ambiance de temps, de chaleur. Oui, on est vraiment sur un aspect visuel. En allant un peu plus loin, est-ce qu'on peut voir apparaître des choses un peu plus revendicatives, vraiment, j'allais dire, 100% belges? Un exemple, je sais que sur la francophonie, les Québécois, eux, n'hésitent pas à citer nommément Québec, à utiliser leur légende à eux, à utiliser des mots. Enfin voilà, il y a vraiment... aussi très décomplexé, même très revendicatif dans leur écriture générale comme imaginaire. Est-ce qu'on y a de ça aussi ou pas du tout là par contre, cet aspect revendicatif à tout prix?
Déjà moi mon roman il commence par un concours de bière. Donc, en termes de belgitude, je crois que ça se pose là. Sinon, il y a un truc auquel je tenais, c'était de garder tout ce qui était 90 et 70 et garder la bière, par exemple, je parle de Krieg dedans, je parle de... C'est du détail, mais ça reste notre singularité.
Moi, l'histoire ne s'y prêtait pas, parce que le domaine d'Esvert, je l'ai placé à quelques kilomètres de Paris pour les besoins de l'histoire, donc ça ne s'y prêtait pas. Maintenant, par contre, je sais qu'il y a des auteurs belges qui, une fois qu'ils sont publiés chez un éditeur français, n'aiment pas trop qu'on les appelle auteurs belges, etc. Donc, moi, au contraire, dans ma biographie, dans ma présentation, j'insiste pour qu'on cite que je suis liégeoise, avant belge, c'est rigolo. Et la mixité, il y a aussi peut-être, parce que je pensais à ça pendant que tu parlais de Liège qui est déjà mixte, c'est que toi, tu es belgo-canadien. Et moi, en fait, j'ai des origines espagnoles, donc Liège est aussi mixte dans la population. Donc, il n'y a pas vraiment de revendication belge dans ce roman parce qu'on ne s'y prêtait pas. Mais par contre, si le décor, l'histoire le permet, oui, je ne vais certainement pas chercher un mot pour un autre. Par exemple, dans les Chroniques des Hémisphères, à un moment donné, les deux personnages roulis-boule dans l'herbe. Mon éditeur m'a dit tu changerais pas roulis-boule parce que ça va pas être. J'ai dit non, je vois pas d'autres mots.
Un éditeur français?
Non, belge en plus. Non, donc j'ai laissé roulis-boule parce que pour moi il n'y avait pas de. Ou comme Sarah Doak, petite anecdote, voulait traduire de l'anglais racrapoter. Le papier se racrapota et son éditeur lui a dit mais c'est quoi racrapoter? Et elle a dit bah, je sais pas, on va laisser racrapoter parce que je vois pas d'autres mots. Pour dire se réduire en faisant des crépitements. C'est ça, racrapoter.
D'accord. C'est drôle l'anecdote que vous dites qu'un auteur belge voulait effacer sa belgitude, parce que souvent c'est plutôt l'inverse, c'est les Français qui veulent tout franciser. Nous, de notre côté, on a une blague, c'est un auteur belge-suisse et belge-suisse littéraire, jusqu'à ce qu'il ait du succès, et là il devient français, hein, forcément.
Oui.
Faire Harry Kéber, le succès de la série et du roman. Je voudrais revenir d'accord sur le contemporain, justement, vous l'avez aussi évoqué. L'imaginaire belge, c'est organisé, vous connaissez, c'est identifié. Est-ce que, déjà entre vous, comment c'est organisé en fait, si c'est organisé?
Il y a eu un semblant d'organisation, mais qui tient bien. Au départ, donc, vous avez compris que les Liégeois sont assez... Je suis bien et fière. En 2013, je crois, 2014, Emmanuel Gob nous a rassemblés... 2016. Emmanuel Gob, qui travaillait notamment sur Multivers, s'est rendu compte qu'en fait, à Liège, il y avait plein d'auteurs liégeois, de blogueurs, de lecteurs... des gens du cinéma, des dessinateurs qui travaillaient dans l'imaginaire. Et donc, il a appelé ça les ardents de l'imaginaire. Ça s'est fondé à Épinal en 2016. Donc, autour d'une table, ils se sont rendus compte qu'il y a plein de liégeois. Et donc, en fait, ce groupe a été créé, nous a rassemblés, nous a permis de nous rencontrer notamment. Et ça fait donc maintenant presque 3 ans que l'on se voit une fois par mois pour boire des bières tous ensemble. Et au départ, c'était juste pour se rencontrer, discuter. Mais il y a des projets qui sont nés de ça, des amitiés qui sont nées de ça. Et même pour des auteurs un peu plus éloignés, comme Stéphane Plateau, ou Bérangère Rousseau, qui vient de Mons, ou Sarah à Bruxelles, ou Cindy Van Wilder, je pense qu'elle est une amoureuse, je dis peut-être une bêtise. Finalement, on se rencontre, on se soutient, on se passe le relais les uns les autres. Quand on peut dire « Ah, mais je suis invitée là, peut-être que ça intéresserait aussi l'organisation d'inviter telle autrice ou tel auteur », alors on s'emporte les uns les autres.
Quelque chose à ajouter ou...
Non, là, c'était bien. Là.
On avance dans l'horaire. Est-ce que vous avez des questions qui sont apparues depuis tout à l'heure que vous voulez poser à nos invités? Oui, une là-bas. Est-ce que je peux vous laisser approcher?
Ouais.
Oui.
Si je synthétise ma question, c'est est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir pour que des littératures de l'imaginaire, on attire d'autres publics, de la littérature générale ou d'autres médias ?
Oui, bien sûr, parce que tout est dans tout à partir du moment où moi je fonctionne beaucoup à la rencontre, je suis un être hyper social, hyper sociable, et on dit toujours que le métier d'écrivain est très solitaire, je suis d'accord, on est tout seul devant sa page, mais ça n'empêche pas d'appeler Damien, j'arrive pas à écrire, là, ou Christine, de lui dire, j'en suis là dans mon histoire, j'ai besoin de partager énormément. Donc pour moi c'est la rencontre, et une rencontre permet de s'intéresser aux gens, donc forcément de s'intéresser à ceux qu'ils sont. Je vais prendre un exemple plus concret pour arriver là où je veux en venir. J'ai écrit le scénario d'un podcast de série sonore, produit par la RTBF, qui s'appelle Doulange. Donc c'est un podcast, c'est un polar. C'est une enquête thriller journalistique et qui est juste une série sonore. Donc c'est vraiment à écouter.
Et qui est vraiment bien.
Merci. J'ai dit pour se monter les uns les autres. Et donc en fait, ça permet de toucher les amateurs de polar, de podcast. S'ils s'intéressent à mon profil parce qu'ils ont bien aimé, du coup ils ont accès au reste de ma bibliographie. Donc je vais dire que jusqu'ici j'ai écrit majoritairement de la littérature de l'imaginaire au sens global, mais si une graine d'idée dans un autre genre me vient, c'est plutôt ma passion, c'est plutôt d'écrire des bonnes histoires, peu importe le genre, et du coup de brasser effectivement des profils différents et de rencontrer des personnes différentes, c'est ça qui est super intéressant. Je réponds à votre question, plus ou moins.
Mais je pense qu'il y a un truc sur lequel il faudrait bosser aussi, c'est le fait que les littératures de l'imaginaire, généralement, existent pour parler du monde actuel, pas pour parler d'un monde hypothétique, imaginaire, qui n'existerait pas et qui sont là uniquement dans la tête de gens un peu fous. Ça existe pour donner des messages sur le monde dans lequel on vit et essayer de le faire évoluer dans le bon sens. Peut-être que si les gens qui voient l'imaginaire comme étant un truc un peu fantaisiste,
pour les enfants,
qui n'a rien de concret, comprenaient qu'en fait c'est vraiment très très concret tout ce qu'on raconte dans les histoires, ça aiderait aussi en fait à faire découvrir l'imaginaire aux gens qui ont l'habitude de lire du thriller, du polar, du tout le reste en fait.
Je trouve que l'imaginaire me plaît, moi, parce que je suis quelqu'un d'hyper symbolique, j'aime les symboles, j'aime décortiquer, j'ai fait du latin, la mythologie, les mythes fondateurs, et l'imaginaire permet en fait de digérer le monde réel et de le transformer en une métaphore incroyable. Et moi, ce que j'aime quand je lis la littérature de l'imaginaire, c'est de découvrir, tiens, dans le contexte de l'auteur, qu'est-ce qu'il a amené à créer cette métaphore, à créer ce roman, à écrire cette histoire, à générer en fait sa propre mythologie dans une histoire. Et je vais juste finir là-dessus en disant que j'ai vu une interview de Neil Gaiman, un auteur absolument polyphonique, extraordinaire, qui touche à tout, et qui disait en fait qu'on dit toujours littérature de l'imaginaire ou de la fiction, mais en fait même un roman psychologique est un roman imaginaire, puisqu'on doit créer l'univers. Et moi je travaille avec des scénaristes, et même s'ils écrivent un polar ou une série politique, à moins qu'ils ne soient caméra à l'épaule sur une personne qui existe et avoir accès à ses pensées, ils doivent créer un univers. Donc même une série politique, un livre, un thriller psychologique, c'est la création d'un imaginaire, d'un monde qui n'existe pas, des personnages qui n'existent pas. Donc c'est de toute façon un travail d'imagination. Voilà, je vais finir sur ça.
Ça me fait une belle transition, parce que c'était un peu la question que j'allais poser. Moi, je remarquais, je connais mieux effectivement la littérature française que belge, mais depuis quelques années en France, on a l'imaginaire qui est un peu partout, qui se cache dans la littérature générale, mais qui ne s'annonce pas. Je disais en plaisantant tout à l'heure, ouais, quand un auteur suisse ou belge a du succès, il devient français, ben c'est un peu pareil pour l'imaginaire, c'est-à-dire dès qu'un livre a du succès, c'est plus l'imaginaire, c'est de la littérature générale en France. Je pense par exemple à 7 de Tristan Garcia, qui est ouvertement un récit fantastique. Je voulais citer aussi Notre vie dans les forêts, quand même, dystopie de Marc Dubériossec en 2007, quand même. Et surtout, Auprès de moi toujours, qui est donc de Kazuo Ishiguro, qui est comme prix Nobel de littérature en 2017. Et auprès de moi toujours, c'est quand même une uchronie ouverte et annoncée. Est-ce qu'il y a le même constat sur la, la mise en avant, soit dans les librairies, dans les médias, que l'imaginaire, alors j'aime pas le mot de sous-genre, mais qu'il n'est pas considéré de la même façon que la littérature générale, et peut-être moins haut dans l'échelle, on va dire.
Oui, moi j'ai notamment en librairie, ça dévie un petit peu, mais j'ai une amie qui est libraire. Et je sais pas si tout le monde connaît un petit peu le système des librairies, mais en fait il y a dans la librairie, il y a des gens qui sont des représentants de maisons d'édition qui passent, qui représentent plusieurs maisons d'édition, qui viennent présenter des livres. Et vos libraires, après le libraire décider s'ils prennent les livres ou pas. Et j'ai une amie qui me dit que régulièrement, les représentants représentent plusieurs maisons, pas forcément l'imaginaire. Et quand ils arrivent avec leur dossier et quand vient le tour de l'imaginaire, ça arrive souvent que le représentant dise bon bah en fait là c'est l'imaginaire donc on passe. Et forcément mon ami qui est super fan d'imaginaire dit mais non, j'ai envie de savoir tout ça. Et c'est un peu dommage, c'est vachement dommage même que les gens qui sont censés vendre les bouquins aux libraires avant même qu'ils soient vendus aux gens, déconsidèrent déjà le genre. Et donc là-dessus, il y a vraiment déjà à ce niveau-là un gros problème au niveau de la représentation de l'imaginaire. Et alors forcément, au niveau de la représentation de l'imaginaire, on a toujours des trucs vraiment séparés. Et il y a vraiment une vraie séparation faite, qui est faite et qui permet moins la découverte pour les gens qui ne connaissent pas.
Les choses changent, parce que moi j'ai fait donc une licence en littérature romaine, et pour avoir accès à l'imaginaire, au polar, à la littérature de jeunesse, au fantastique, à la fantasy, à la science-fiction, il faut suivre le cours de paralittérature, qui est en option, et qui est un cours vraiment, à mon époque en tout cas, se donner sur 6 mois. Donc tout le reste, pendant 5 ans, c'est la littérature générale, la littérature blanche, les classiques. De toutes les époques, depuis l'ancien français jusque 1945, puisque j'ai eu cette prof qui a dit que la littérature pour elle s'arrêtait à la Seconde Guerre mondiale. J'espère qu'elle parlait de son cours et pas de ce qu'elle pensait. Et maintenant, les choses changent, parce que je sais qu'il y a des mémoires qui sont faits sur cette paralittérature, des mémorants qui choisissent des sujets dans ces littératures-là. Et puis aussi, on assiste à une nouvelle génération qui arrive, de jeunes adultes qui ont grandi avec Harry Potter, qui ont grandi avec Le Seigneur des Anneaux, qui ont lu toute la littérature de jeunesse qui est aujourd'hui possible. Genre, si j'avais eu L'Épouvanteur quand j'avais 12 ans, que j'avais pas eu La Comtesse de Ségur, peut-être que je me serais intéressée beaucoup plus au genre, beaucoup plus vite. Donc on a des représentants, je les pointe parce qu'elles sont là. La nouvelle génération aussi qui a grandi avec ça et qui a fait l'expérience d'une littérature de jeunesse ou pas, de l'imaginaire qui leur a donné le goût de lire, le goût de lecture. Donc peut-être, en tout cas, des appétits pour l'imaginaire qui sont différents des générations précédentes.
Donc il y a effectivement un peu une dichotomie, mais ça va dans le bon sens pour vous. Il y a des choses qui arrivent et qui prend petit à petit sa place.
Ça bouge lentement, mais ça avance.
Chez nous aussi, J'avais juste pour l'anecdote, j'avais vu qu'il y avait une jeune autrice belge que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Amélie Nothomb, qui avait écrit en fait une autobiographie d'anticipation dans laquelle la narratrice se retrouve projetée quasiment 600 ans après sa maladie. Je me suis dit oui, alors effectivement même chez vous en avez de l'imaginaire caché dans la littérature générale. Je voudrais juste me faire l'avocat du diable sur ce dernier thème. Il y a effectivement, c'est normal, cette revendication un peu des genres, d'être apprécié, lu comme n'importe quel genre. Mais un lecteur de genre, est-ce qu'il n'est pas que du genre en fait? Et aussi l'inverse, on dit sur la littérature générale, on ne va jamais vers les genres, le policier, le fantastique. Et qu'en est-il alors il n'y a pas un petit peu aussi un problème d'ouverture des lecteurs et des auteurs qui lisent essentiellement du genre et qui vont peut-être pas voir aussi ce qui se fait en polar, en littérature générale?
Si, mais c'est dommage. Il y a des trucs partout. Et il y a des bouquins qu'on peut apprécier dans n'importe quel genre. Et je pense que c'est une erreur de s'arrêter à un genre, parce que c'est plutôt des auteurs en fait que je vais chercher. et si je vais plus accrocher à un auteur qu'à un genre. Si dans un genre vous appréciez un auteur, peut-être que vous apprécierez aussi ce qu'il a écrit dans un autre genre. Ça vaut peut-être la peine d'aller jeter un œil.
Il y a un exemple par rapport à ça que vous avez en tête, non?
Si je réfléchis ça un peu plus, peut-être que ça me viendra tout à l'heure, mais là,
pas de soucis.
Effectivement, c'est le problème des cases. C'est qu'à partir du moment où on aime une case, on se dirige là en essayant. C'est toujours une histoire d'émotion. Je crois que quelles que soient les histoires qu'on nous raconte, on cherche à ressentir des émotions. Et le même genre d'histoire, c'est la définition du genre. Si vous prenez un thriller, vous savez que normalement, si l'auteur a bien fait son travail, vous allez un peu trembler. Donc c'est une histoire d'émotion. C'est une histoire de le lecteur veut retrouver les émotions qu'il a déjà ressenties parce que la lecture est une manière de se mettre en danger, mais de manière tout à fait safe. C'est pour ça qu'on est des êtres de fiction depuis la nuit des temps. Il faut avoir la curiosité d'aller dans d'autres cases, voir d'autres styles, d'autres palettes d'émotions. Et moi, je suis absolument pas fidèle ni à des auteurs ni à des genres. Je fais une cueillette permanente. Je vais pouvoir lire Margaret Atwood, à la fois La Servante Écarlate, mais aussi La Femme Comestible, qui sont dans ces thématiques les mêmes. Les thématiques sont vraiment les mêmes braises qui sous-tendent les romans, mais les genres sont différents. Je vais lire William Faulkner parce que tout d'un coup, son style me fascine. Alors c'est long à lire, hein. J'ai mis un mois à finir Absalon Absalon, mais c'était une claque. Je vais avoir envie de relire plusieurs fois la saga Harry Potter parce que j'ai envie de ressentir ces émotions qui m'ont rassurée et qui m'ont fait passer de bons moments. Donc je pense que c'est une histoire d'émotions. Pour décloisonner, il faut être prêt à vivre d'autres émotions dans d'autres genres. Une curiosité naturelle en fait.
La curiosité de la lecture avant tout. Mais est-ce que vous êtes représentatif, parce que là encore je suis un peu sûr, vous êtes représentatif de, j'allais dire, des écrivains contemporains quand vous buvez des bières là, à Liège avec votre collectif. Est-ce que sur le partage, parce que j'ai l'impression, du moins en France, les auteurs d'imaginaire lisent beaucoup d'imaginaire. Bien sûr, ils vont parfois chercher ailleurs. C'est assez cloisonné finalement dans les deux sens, c'est pas très pour eux.
Personnellement, moi je lis effectivement plus d'imaginaire, enfin je lis beaucoup d'imaginaire, ça change pas. Maintenant ça m'arrive aussi de lire vraiment autre chose et ça, généralement ça me nourrit plus que l'imaginaire. Donc c'est pour ça que le mélange est très bien. Maintenant, honnêtement, j'en ai aucune idée de savoir si on est représentatif ou pas.
En tout cas, de ceux de qui on partage les vies, Sébastien Marchez, Doris Facciolo, ce sont des grands lecteurs aussi. Et ils sont capables, enfin, Sébastien Marchez est capable de savaler une saga japonaise et puis après de lire plutôt de la science-fiction et puis de revenir. C'est vraiment il picore dans tous les genres aussi.
D'accord. Plus poreux, plus curieux. D'accord. Très bien. On arrive au bout de cette table ronde. Je voulais qu'on prenne quelques minutes pour parler un petit peu de vos projets. Avec les autorisations éditoriales, pour certains, s'ils veulent en parler. On commence par vous, Katia.
Ok, d'accord. Donc, suite à la parution des Ombres des Verts, comme après avoir terminé un roman, je me retrouve orpheline. Je suis assaillie par tout plein d'idées en même temps. Donc, je me suis laissé le temps de savoir quelle idée avait envie de travailler avec moi. Et elle s'est manifestée. Et donc, je travaille sur une dystopie. Je veux dire que l'inspiration est la guerre civile espagnole. Voilà, c'est
une dystopie ou historique pour le coup.
Oui, mais plus dans l'inspiration parce que ce sera quand même un monde imaginaire. Je ne vais pas reprendre parce que c'est un passé familial, c'est quelque chose que je peux aller chercher. Donc une dystopie où la thématique vraiment ça va être à quoi résistent nos loyautés. Parce qu'au-delà d'une guerre contre un ennemi commun, il y a la guerre civile où tout d'un coup notre ami d'enfance peut devenir l'ennemi. Donc mes personnages vont être dans cette dynamique-là.
Du coup, sur les inspirations, tout de suite, je pense au labyrinthe de Pan de Benicio del Toro.
Oui, clairement, mais on en parlait aussi du labyrinthe de Pan pour les élèves aussi. Oui, clairement.
De mon côté, effectivement, il y a un projet pour lequel voilà, je peux pas trop bien dévoiler pour le moment, mais qui sera cool, qui sera chouette. Mais j'ai aussi la suite, pas tout à fait la suite, donc de ce livre aussi, qui est quasiment terminé. Donc qui se passera dans le même univers avec un personnage principal différent, mais qui existe déjà dans ce livre-ci, et qui se passera en parallèle en fait avec le troisième tome. Ce sera deux histoires qui se passeront en même temps, deux livres différents, avec deux personnages différents, et qui s'entrecroiseront pour faire une histoire complète, mais chaque tome pourra suivre séparément.
Et un beau bouquet final, parce que moi je sais.
Et un beau bouquet final, effectivement.
Et bien sûr, une exclusivité pour la foire de Bruxelles 2020.
Mais avec plaisir. Avec plaisir.
Rendez-vous dans un an.
Tout à fait.
Est-ce que vous avez, là on arrive au bout de la table ronde, est-ce que vous avez une ou deux dernières questions à poser à nos auteurs? Profitez-en, ils sont là. Pas d'envie. Eh bien, on n'a plus qu'à vous remercier.
Merci à vous tous.
Et merci au public. Vous pouvez les retrouver en dédicace sur le stand des Indés de l'Imaginaire 342 immédiatement. Et puis, si vous voulez continuer quelques instants à discuter avec eux ou leur poser des questions, n'hésitez pas à aller au stand de Laval et vous répondront avec plaisir. Merci encore et merci à vous.
Merci.